comédie du jour, Philippe, on parle de la lutte contre les fake news.
Effectivement, les médias déclarent la guerre aux fake news. La prestigieuse BBC a lancé une initiative pour lutter contre la désinformation, pas toute seule. Elle a rassemblé avec elle une dizaine de grands titres internationaux, dont l'AFP, mais également l'Union Européenne de Radiodiffusion, le Financial Times, pardon pour l'accent, le Wall Street Journal, CBC Radio Canada, de Reuters, du Reuters Institute, ainsi que les géants du numérique, des géants du numérique, Facebook, Google, Microsoft, excusez du peu. Pour en parler, je reçois Grégoire Lemarchand. Bonjour.
Bonjour.
C'est le matin, vous êtes chef de la cellule fact-checking à l'AFP et le journaliste Thomas Huchon. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Vous êtes l'un des premiers pisteurs de fake news, notamment via le site Spicy. Question à Grégoire Lemarchand, je le rappelle, vous occupez du fact-checking à l'AFP. En quoi consiste ce front commun contre les fake news, puisque vous y êtes associé, quels outils avez-vous en commun ?
L'idée, c'est vraiment de se dire que les médias courent toujours derrière la désinformation, que lorsqu'on entend combattre la désinformation, finalement, il n'y a plus vraiment de concurrence. Il n'y a pas de scoop, à débunker, à démystifier quelque chose. Mais on voit que ces dernières années, le débat démocratique est souvent un peu pourri, vicié, que, on va dire, la désinformation peut avoir des conséquences très graves dans la vie réelle. On l'a vu en Inde, où il y a eu des lynchages à la suite de rumeurs de kidnapping véhiculées via WhatsApp. Donc quand on parle de ces choses-là, on pense que il y a intérêt à collaborer entre médias et à partager des savoir-faire, des informations lorsque vraiment la désinformation, parfois elle est anecdotique, mais parfois elle peut avoir des conséquences très graves, encore une fois, sur le débat public, notamment dans des périodes d'élections, mais aussi, comme je vous disais, dans la vie réelle, sur la santé des gens, sur même leur intégrité physique. Donc l'idée, c'est de se mettre ensemble et de partager nos savoirs, de tenter des choses, d'expérimenter et finalement de faire en sorte qu'on n'ait pas toujours l'impression de courir derrière les informations. Vous savez, c'est un peu comme la lutte contre le dopage. On a toujours l'impression que les gens qui se dopent ont toujours des techniques d'avance. Ouais. Donc, comment on peut faire pour que, couper au plus tôt la viralité de la désinformation ?
C'était justement la question que j'allais vous poser. Concrètement, comment pouvez-vous faire ?
C'est de se réunir, c'est de se voir souvent, et c'est de dire, par exemple, surtout le pan technique. Ouais. Il y a des Media Labs à la BBC, à l'AFP, ailleurs, dans d'autres médias, chez Reuters. C'est de se dire, on entend beaucoup parler des deepfakes. J'imagine que vous en avez parlé dans cette émission.
On va en parler tout à l'heure des deepfakes.
Voilà. Comment on peut faire pour pas tomber dans le piège des deepfakes? On sait que c'est sophistiqué, que ça peut avoir beaucoup d'effets, qu'aujourd'hui, les gens, parfois, ont tendance à croire des choses assez grossièrement manipulées. Mm-hmm. Donc, qu'est-ce qui va en être quand les choses seront très techniquement avancées? Donc, est-ce qu'on ne peut pas tous ensemble essayer de trouver, des outils, des standards communs, par exemple, sur les deepfakes pour les détecter le plus vite possible?
Quand vous dites tous ensemble, c'est-à-dire qu'il y aurait quoi? Une sorte de réunion informelle virtuelle, comme j'imagine les polices se réunissent dans Interpol en se parlant, en échangeant des infos tous les jours à 18h. Enfin, j'ai dit 18h au pif. Hein.
Oui, ça peut être ça. Et c'est vraiment quand on travaille sur des outils techniques, l'AFP a toujours été en pointe, notamment pour travailler sur les manipulations de l'image. Comment on peut échanger nos savoirs à la fois avec nos partenaires médias, mais aussi, effectivement, vous y viez l'illusion tout à l'heure, avec les GAFA.
Alors, vous êtes chef de la cellule fact-checking à l'AFP, vous êtes combien et comment vous travaillez ?
Aujourd'hui, on est près d'une cinquantaine de journalistes dans le monde, spécialisés dans le fact-checking, la vérification. On est partout dans le monde, c'est-à-dire que l'AFP est une agence mondiale, donc nos fact-checkers, ils sont partout dans le monde, ils sont dans tous les continents.
D'un mot, pour qu'on voit la proportion, vous avez combien de journalistes dans le monde ?
On a aujourd'hui un peu plus de 1500 journalistes.
1500, dont 50 dédiés au fact-checking.
Absolument.
Alors comment travaillent-ils ?
Eh ben, déjà, on travaille en 8 langues. Donc je vous ai dit, sur tous les continents, en Asie, en Afrique. Et ce sont des journalistes locaux qui connaissent l'écosystème médiatique local, qui connaissent les spécificités, les langues, comment ça marche sur les réseaux sociaux. Il y a certains pays, c'est très Twitter, d'autres c'est plus Facebook, d'autres c'est plus WhatsApp. Et finalement, c'est en suivant tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux qui peuvent véhiculer de la désinformation, essayer de la repérer la plus vite, justement, et puis écrire, dire pourquoi c'est faux, pourquoi c'est un mélange de vrai et de faux, et d'écrire dessus pour justement essayer de contrecarrer la viralisation de la désinformation.
Au niveau mondial, quels sont les thèmes les plus ciblés ?
C'est souvent les mêmes, donc on a beaucoup de choses sur la santé. On vous vend des remèdes miracles un peu partout dans le monde. Et c'est aussi, j'allais dire, la haine de l'autre, finalement. C'est-à-dire beaucoup les migrants, l'autre, c'est-à-dire la religion minoritaire dans un pays. C'est vraiment la cible numéro un de la désinformation.
On l'a vu en banlieue avec des Roms, soi-disant une camionnette Rome qui enlevait des enfants, qui n'a jamais existé, mais qui a donné lieu à des expéditions punitives.
Oui, et ce qu'on a vécu en France et qui est déjà assez grave, je le disais tout à l'heure, en Inde, ça a vraiment eu des conséquences dramatiques, puisque des gens, j'allais dire, qui n'avaient rien à voir avec la choucroute, pardonnez-moi, se sont fait lyncher dans des villages en Inde, parce que il y avait des rumeurs comme quoi des urbains venaient kidnapper des enfants dans les villages.
Événement parisien qui est devenu français, qui est devenu mondial, l'incendie de Notre-Dame. Là aussi, vous dites qu'il y a eu des fake news.
Il y a eu beaucoup de choses et c'est intéressant de voir que le soir même de l'incendie, finalement, quand on regardait un petit peu les réseaux sociaux francophones, voilà, il y avait la stupéfaction, mais on ne parlait pas encore d'un incendie volontaire ou un attentat, etc. Et c'est arrivé très vite le lendemain. Est-ce qu'on s'est rendu compte ? Alors c'est notre observation, il n'y a pas d'observation scientifique, mais que ça venait finalement d'outre-Atlantique via l'alt-right, enfin l'extrême droite américaine, qui via des comptes plutôt anonymes mais retweetés par des comptes très influents de l'extrême droite aux États-Unis ont donné de l'écho et de l'audience à des théories assez fantaisistes, comme peut-être vous vous souvenez, quelqu'un en gilet jaune sur une des tours de Notre-Dame qui faisait je ne sais quoi, et finalement c'était juste un des responsables des pompiers.
Vous savez quoi, j'ai même vu la photo. Mais justement, le problème de la fake news, c'est la légende sous la photo. Une photo ne veut rien dire sans la légende. Mais j'ai vu ce type, évidemment, avec son gilet jaune. Thomas Huchon, vous avez travaillé justement à Spicy sur Notre-Dame. Qu'avez-vous découvert ?
Mais ce qu'on découvre, en fait, quand on s'intéresse à n'importe quel grand événement mondial, c'est qu'aujourd'hui, la population vit des réalités absolument différentes. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que vous avez fait sur vos différents réseaux sociaux dans les années précédentes, on va vous montrer quelque chose de totalement différent. Nous, on s'est livré à une petite expérience durant les élections européennes. On a créé 6 faux profils Facebook qui étaient animés par des étudiants en journalisme de l'école de Sciences Po. Et chacun de ces étudiants campait une couleur politique. Qu'on avait un gilet jaune, un Rassemblement National, un Parti Socialiste Génération un peu bizarre, on savait plus trop qui était qui, les Insoumis, voilà. Et en gros, ces 6 étudiants, au moment de Notre-Dame, ils ont vécu 6 semaines, une semaine totalement différente. Chez les Gilets jaunes, c'était un coup de Macron. Chez Macron, c'était un coup des Gilets jaunes. Chez le Rassemblement National, c'était un coup des musulmans.
Vous voulez dire que les messages qui leur arrivaient étaient ciblés ?
C'est-à-dire que les algorithmes des réseaux sociaux faisaient remonter des contenus que les réseaux sociaux estimaient pertinents pour l'utilisateur. Le réseau social, finalement, il s'en fiche que vous soyez de gauche ou de droite, ou que vous soyez un mec d'extrême gauche ou d'extrême droite. Ça ne l'intéresse pas.
Ce qu'il veut, c'est qu'on reclique.
Ce qui compte, c'est de rester sur la plateforme. Et pour rester sur la plateforme, ils vont essayer d'utiliser plutôt vos émotions que votre intelligence. Et c'est là-dessus que, dans le combat contre les fake news, contre la désinformation, les journalistes professionnels sont totalement désavantagés. L'émotion, ça joue beaucoup plus que l'intelligence. Si vous voyez quelque chose de choquant, vous allez cliquer tout de suite. Quelque chose d'un peu rébarbatif sur la réalité des vaccins, je ne suis pas certain que vous cliquez.
Mais alors, votre expérience auprès de Facebook amène une question que je voulais poser un tout petit peu plus tard, je vous la pose maintenant, Grégoire Lemarchand. Dans l'initiative de la BBC, est associé notamment Facebook. Donc ils sont à la fois juges et partis. Ils vont faire du fact-checking de leur propre site.
Alors, ils vont pas faire du fact-checking, ils sont pas des journalistes, voilà. En revanche, ils ont la volonté d'essayer de faire en sorte que leur plateforme soit peut-être un petit peu plus saine. En tout cas, nous, à l'AFP, et c'est le cas d'une cinquantaine de médias dans le monde, et puis aussi d'un certain nombre de médias en France, comme les Décodeurs du Monde ou Check News de Libération, nous, on travaille déjà depuis bientôt 2 ans avec Facebook qui reprend nos contenus de vérification, de fact-checking et qui les met sur la plateforme. C'est-à-dire, si vous, Philippe, vous partagez une photo, vous décontextualisez, c'est-à-dire une légende qui n'a rien à voir avec la réalité, si nous, l'AFP, on a dit attention, ce contenu est faux, vous allez avoir un avertissement vous invitant à lire le fact-checking de l'AFP qui vous explique pourquoi c'est faux. Donc il y a déjà un premier effort de fait.
Europe 1. Les médias font front commun avec les réseaux sociaux pour lutter contre les fake news. On continue à en parler dans Culture Média sur Europe 1. Au Média du jour, on parle de la lutte contre les fake news. Philippe Bandel avec vos invités, le chef de la cellule fact-checking de l'AFP, Grégoire Lemarchand, et Thomas Huchon, journaliste à Spicy.
Oui, je le disais, la prestigieuse BBC a lancé une initiative mondiale pour lutter contre la désinformation avec l'AFP, le Financial Times, le Wall Street Journal, Facebook, Google, Microsoft, Radio-Canada, l'agence Reuters, beaucoup de choses. Thomas Huchon, vous êtes journaliste sur Spicy, qui est un média 100% vidéo. Vous avez consacré de nombreux reportages aux conspirationnistes. Est-ce que vous êtes convaincu par ce genre d'initiative ?
Mais je crois que la situation est tellement grave qu'on ne peut pas faire l'impasse sur ce genre d'initiative. C'est-à-dire que ce que disait Grégoire, très intéressant, c'est que les journaux sont tous en concurrence. Vous êtes en concurrence avec d'autres radios, Spicy en concurrence avec d'autres sites, mais il y a des questions sur lesquelles cette concurrence ne doit plus jouer. Ces questions, c'est ce qu'on va appeler finalement le tronc commun, ce qui va nous permettre de débattre, ce qu'on va mettre sur la table, ce qui sont les faits, l'information. Aujourd'hui, l'information, elle est tellement disruptée par tout un tas de choses. Bon, on a parlé des réseaux sociaux, on peut parler des gens qui veulent vraiment faire de la désinformation, on peut parler des populistes qui, dans tous les pays, utilisent cette arme du mensonge comme un argument électoral permanent. Je crois qu'on peut pas vraiment faire l'impasse. Et ensuite, que vous avez tiqué un petit peu à l'évocation que Facebook, Google soient présents dans ces discussions. Vous savez ce que je pense de ces entreprises-là, mais je ne les porte pas dans mon cœur, c'est peu de choses de le dire. Mais je crois que de la même manière, aujourd'hui, on ne peut plus essayer de travailler sur Internet sans discuter au minimum avec ces gigantesques entreprises. Ça ne veut pas dire qu'il faut les laisser faire ce qu'elles veulent, au contraire, mais ce n'est pas du tout ce que fait l'AFP et les journaux français. D'ailleurs, parce que dans le contrat qu'ils ont avec Facebook, par exemple, Facebook voulait choisir eux-mêmes les thèmes qu'allaient couvrir les journaux français. Les journaux français ont dit non, nous choisirons les sujets que nous allons débunker. Et donc, je crois qu'il y a une espèce de rapport de force à installer, y compris avec la fake news, ça c'est sûr, mais aussi avec ces géants du net. Ces géants du net, il ne faut pas qu'ils s'exonèrent complètement de nos lois, de nos principes citoyens. Et je crois que c'est une manière aussi de les contraindre, c'est d'arriver à discuter avec eux.
Vous êtes des spécialistes, mais ça gagne aussi le mainstream, si j'ose dire, pardon pour l'anglicisme. Depuis quelques mois, les chaînes de télé françaises et leur JT se sont lancées dans la course pour traquer ces fausses nouvelles. La preuve.
Ce soir, dans le journal, ne ratez pas Factuel, notre nouveau rendez-vous. Chaque semaine, nous allons remonter le fil des fausses informations, qui les propagent, dans quel but et comment les détecter. Nous vous donnerons toutes les clés.
Comment combattre les rumeurs, les manipulations, les infox, à l'heure où elles se propagent à une vitesse folle sur le net? Nous allons à présent consacrer une rubrique à cette mission. Ce sera faux et usage de faux.
Bonjour à tous, vrai ou fake, épisode 1, manipulation. Hoax, fake news, intox, fausse info, c'est tout cela qu'on va combattre dans cette émission pour faire la part des choses entre ce qui est vrai et ce qui est faux en matière d'information.
Tout de suite sur France 4, YouTube est-il vraiment votre meilleur ami? C'est vrai qu'on y trouve énormément d'infos, mais c'est pas parce que c'est sur YouTube que c'est forcément vrai. Donc nous, on va vous aider à faire le tri. Ça se passe dans Escape News.
Pourquoi ce montage vous fait sourire et hocher la tête, Thomas Huchon?
Écoutez, vous savez, avec Grégoire, ça fait très longtemps, dans nos petites chapelles respectives, que nous travaillons sur ces questions.
Ouais.
Et donc je crois qu'on ne peut que... À la fois, c'est terrifiant de se dire que notre société a basculé à ce point que tous les médias soient obligés d'aller faire de la déconstruction de mensonges. Et en même temps, ça veut dire que quelque part, on avait identifié un phénomène un petit peu avant les autres et qu'on voulait travailler dessus. Je crois que ça a des conséquences terribles et que, oui, ça nous fait sourire, mais que c'est finalement... Ça dit quelque chose de terrible sur notre société, mais finalement, ça sera quand même l'occasion de lutter un petit peu plus.
J'ai retrouvé un sondage de l'IFOP de 2018 qui disait que les Français étaient de plus en plus sensibles à la théorie du complot. 8 Français sur 10 croient à au moins une théorie du complot. Alors, suivant les cas, ils sont majoritaires à rejeter la thèse officielle du 11 septembre, la thèse officielle sur l'origine du sida, sur les attentats de Charlie Hebdo, et le chiffre qui m'a vraiment frappé, 9% des Français pensent que, contrairement à ce qu'on nous apprend, à ce qu'on nous dit dans les JT, la Terre ne serait pas ronde, mais plate. 9%. Et il y a encore pire qui arrive, il y a le deepfake, c'est-à-dire les vidéos trafiquées. Jean-Pierre Montanet, le rédacteur-chef de l'émission, m'a fait découvrir une vidéo de Maba qui traite Trump de sombre merde. Mmh. Vous avez vu cette vidéo?
Oui, bien sûr. Ouais.
Alors racontez, qu'est-ce que le deepfake? Parce que vous disiez que c'était très... J'aimerais mieux entendre Grégoire. Grégoire est en train de tousser. Mais vous disiez que c'était très très grave le deepfake. J'aimerais mieux vous entendre là-dessus.
Très grave. Disons que le potentiel est assez fantastique, donc peut servir à des intérêts pour nuire au débat démocratique. Aujourd'hui, vous parlez de cette fameuse vidéo d'Obama. Je vous invite aussi à voir une chaîne sur YouTube qui s'appelle Control Shift Face, où quelqu'un prend des très très grands films comme Shining et remplace la tête de Jack Nicholson par celle de Jim Carrey. Je vous assure que c'est incroyable. On ne voit pas la différence. On a vraiment l'impression que c'est Jim Carrey qui est dans le film. Donc, le potentiel est énorme et on peut faire dire finalement n'importe quoi à n'importe qui.
J'explique, deepfake, c'est la contraction de fake, donc le faux, et de deep learning, qui est la forme la plus aboutie de l'intelligence artificielle. Le visage d'Obama truqué avec des outils numériques, comment lutter, comment se rendre compte que c'est faux?
Ben justement, c'est sur ce quoi on travaille. Il y a encore quelques mois, il y avait quelque chose pour détecter les deepfakes, c'est que les gens ne clignaient pas des yeux lorsqu'on voyait la fausse vidéo. Donc, sachant qu'un humain cligne, je ne sais pas, tant de fois par minute, aujourd'hui, ils ont trouvé la parade pour ça. Donc, il va falloir trouver d'autres parades.
Thomas Huchon.
Ben, je crois que ça va devenir très très difficile quand les deepfakes vont se généraliser, parce que la première fois qu'on a vu cette fameuse vidéo de Barack Obama, où c'est Jordan Peele, le comédien, qui singe Barack Obama, ben, on a tous cru que c'était vraiment Barack Obama qui parlait. En tout cas, pendant quelques secondes, ça a été un impact très fort. Et je crois qu'il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que même si on vient vous expliquer que quelque chose est faux, si vous y avez cru un petit peu, si l'image s'est imprégnée dans votre cerveau, il y a quelque chose qui en reste. Et c'est justement ça la vraie problématique demain, c'est comment est-ce qu'on va réagir à toutes ces images trafiquées qui vont nous être imposées.
Et moi, je crois que ce que vous dites est vrai. Merci, Grégoire Lemarchand. Vous êtes chef de la cellule fact-checking à l'AFP. Merci à Thomas Huchon, journaliste, l'un des premiers pisteurs de fake news, notamment via le site Spicy.
Merci.